Pluriel Gay, une émission présentée par Gérald.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, merci de nous retrouver pour cette nouvelle émission de Pluriel Gay. Donc nous avons ce soir Bernard à la régie. Bonsoir Bernard.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission pour notre invité.
Alors notre invité que je vais présenter tout de suite, mais avant je voudrais signaler aussi que nous avons notre troublion du...
Deux jours pour la présentation.
Notre troublion habituel, Michel.
Et bonsoir à tout le monde.
Pour une fois, tu auras quelque chose à dire.
Ouais.
Hein, voilà, mais on en parlera tout à l'heure.
J'aurai le droit à la parole.
Voilà, c'est ça.
Je suis heureux.
De façon chronométrée, hein, bref, tu as droit à 1 minute 35.
Pas plus.
J'espère que tu as bien...
Ah ben, j'enlèverai des mots.
Voilà.
Je vais réduire un peu les phrases.
Et notre invité de ce soir s'appelle Léo Betty. Léo Betty qui est comédien et metteur en scène de théâtre.
Bonsoir.
Bonsoir, Léo. On avait déjà parlé ensemble dans l'émission, puisqu'on avait présenté, mais ça, c'était par téléphone, il y a quelques temps de ça, tu avais monté donc un spectacle qui était basé sur la correspondance de George Sand et de Musset.
Ouais, hein,
et on t'avait appelé au téléphone, tu nous avais parlé un petit peu du spectacle. Donc là, tu reviens pour un autre spectacle qui s'appelle Femme Abyss, dont nous allons parler évidemment. Un spectacle qui va se tenir du 9 au 14 octobre, c'est ça ?
Ouais.
Au Théâtre Espace 44. Voilà. Mais avant tout, je voudrais quand même qu'on parle un petit peu de toi, tout simplement. Donc tu es comédien et tu viens d'où ?
Je viens de Lyon.
Tu es basé à Lyon, tu travailles sur Lyon, ça etc. Et Nisos Théâtre, la compagnie Nisos Théâtre, c'est ta compagnie, c'est toi qui l'as créée.
En fait, je suis à l'origine de la création de la compagnie. Et, elle a été créée en 2014.
Ouais. Voilà. Chaque fois qu'on a un spectacle, que tu as un spectacle, on aime bien en parler ici parce que c'est un peu parallèle un peu aux thématiques de l'émission, je dirais. Ça a souvent à voir avec le genre, ce que tu fais. Hein, le genre, t'aimes bien étudier le genre finalement, explorer toutes les gammes du genre, c'est ça. Tu as fait d'ailleurs il y a 4 ans de ça, ou 3 ans, je ne sais plus, dans 3 ans, 2015, tu avais monté le Frigo de copie, qui est une pièce extraordinaire. Et même si ce n'est pas le sujet, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu de cette pièce. Toi, tu faisais le personnage principal, le seul personnage, il y a un seul personnage dans le frigo. Hein.
Oui.
Il y a le frigo, quoi, et puis il y a le personnage.
Il y a, le personnage elle.
Voilà, on est en plein dans le genre, là, en fait. Hein, parce que le personnage est transgenre, en fait.
Oui, c'est Copil l'a écrite comme une transsexuelle seule dans son appartement qui découvre un frigo dans son salon, et puis.
Elle découvre un frigo et tout change.
De cette surprise et de cette découverte arrive tout un tas d'autres.
Tu connais pas la pièce de Frigo de copie, c'est comme dans Gomilin de l'Odyssée de l'espace. T'as un monolithe qui arrive et tout change. Là, c'est un frigo, dans un cas du frigo donc de copie. Voilà.
Ouais.
Et tu aimes beaucoup copie.
Ah oui, bah c'est. C'est un des rares théâtres, il me semble, qui traite aussi profondément de la marginalité sans qu'elle soit politique, qu'on est vraiment dans un théâtre hyper humain, quoi.
Tu veux dire un théâtre accessible plus que Genève, par exemple, ou
Bah, je ne sais pas si c'est plus accessible, mais ça creuse, en tout cas, beaucoup dans ces endroits-là, les endroits de la marginalité, de la solitude, beaucoup, et de la... La folie, l'incapacité à entrer en communication et en accord avec les autres. Les gens sont ensemble et pourtant seuls. Voilà, ça parle beaucoup de ça, j'ai l'impression.
Alors après la correspondance de Georges Sand, donc Alfred Musset, comment tu avais travaillé sur cette correspondance? Tu avais pris des extraits de la correspondance et tu l'avais scénographié, mise en scène?
Oui.
Et tu interprétais aussi.
Oui,
interprète.
Oui. D'accord. On était deux sur scène.
Vous étiez deux.
Donc j'ai fait un choix de lettres, d'extraits de lettres, parce que forcément, bon, tout peut pas rentrer. Donc on était sur une forme assez courte quand même. On était sur un spectacle d'une heure et où j'avais vraiment découpé les moments des lettres où on est dans une intimité, une espèce de restitution de l'intimité. Et entrecoupé de tableaux hyper visuels et uniquement corporels et physiques pour illustrer.
Et là, on est un peu aussi dans les limites de la marginalité, dans le sens où. Enfin, la marginalité. du genre aussi, puisque George Sand était célèbre pour évidemment avoir transgressé les codes de son époque, puisqu'à l'époque, porter un pantalon pour une femme était aussi peu estimable que porter une jupe pour un homme aujourd'hui. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que c'est ce côté-là aussi qui t'avait plu ?
Mais pas du tout, parce que ça, je m'en étais pas rendu compte.
D'accord.
Ça m'a été dit.
C'était inconscient.
La question du genre, ouais, je peux pas dire que j'y ai pensé.
Ouais.
Mais ouais, c'est des choses inconscientes qui réapparaissent un peu dans ce que je fais. Je sais pas pourquoi.
Et là, tu nous vas nous présenter donc Femme Abyss. Alors, Femme Abyss, cette fois-ci, tu n'es pas sur scène.
Non.
Mais tu es le metteur en scène.
Oui.
Alors, comment ça s'est passé ? Je veux dire, comment es-tu arrivé à mettre en scène cette pièce ? On va en parler, on va parler du sujet, évidemment. C'est une idée qui vient de toi ou une collaboration avec d'autres personnes ? Tu as discuté un jour au bar du coin, j'aimerais bien parler d'héroïne tragique, etc. Quelqu'un qui t'a dit je vais écrire quelque chose là-dessus.
Non, en fait, c'est une idée de moi et ça fait 2 ans que je travaille sur cette idée. Donc, au départ, j'avais l'idée de traiter des personnages, des grands personnages féminins, de la littérature ou des mythes. C'était très ciblé dans mon esprit, les personnages qui m'intéressaient. Et donc, il y a encore des personnages qui sont restés, qui étaient là dans mon esprit au départ, comme Lucrèce Borgia ou Médée, Antigone, la marquise de Merteuil. Et donc après, au départ, moi, j'ai le processus de travail de départ, c'était... je voulais utiliser le texte du répertoire et les détourner. Et je me suis rendu compte que, bon, enfin, c'était peut-être pas l'idée la plus judicieuse, donc je me suis... mis à chercher un auteur.
Et donc tu as cherché quelqu'un
pour écrire
en lui disant voilà, j'ai cette
idée
là.
Oui, parce que moi j'avais en tête une idée très précise de ce que je voulais dans le style, l'écriture et dans le propos, et donc il me fallait trouver un auteur qui colle à ma vision et qui puisse retranscrire ce que moi j'avais dans la tête et que moi je ne pouvais pas écrire puisque je n'écris pas. Et donc voilà, c'est fait comme ça. Puis j'ai rencontré Théo Soligny, dont j'avais lu des choses, et ce qu'il écrivait m'a beaucoup, beaucoup intéressé dans sa façon d'aborder le langage, quoi. Dans une espèce de langue poétique et brutale.
Ouais. Voilà. Alors bon, Théo Soligny n'est pas là pour nous en parler, mais j'aurais bien aimé savoir comment il s'est inspiré pour l'écriture. Parce que bon, les personnages donc, que tu as évoqués, tu as évoqué Médée, la marquise de Merteuil, Lucrèce Borgia, et puis qui d'autre encore ? Antigone.
Il y a Antigone. Et après, il y a d'autres...
Qui sont des personnages, je veux dire, des personnages, soit des personnages de mythes antiques, soit des personnages littéraires. Donc, il a dû relire des œuvres, il a revu le théâtre, je ne sais pas, moi, de Sophocle ou d'Euripide, je ne sais plus qui c'est qui a écrit sur Antigone, j'ai oublié, ou il a relu les Liaisons dangereuses de l'Enclos, c'est ça, je ne me trompe pas. Je ne sais pas, est-ce qu'il a dû faire tout ce travail-là
Il y a eu pratiquement un travail d'écriture qui a duré presque un an de... travail de recherche, de dramaturgie, pour arriver à aussi à... Parce que moi, je lui ai imposé certains personnages. Certains personnages que je voulais ont été abandonnés aussi. Parce que lui, il n'arrivait pas à écrire dessus, ça ne l'inspirait pas, il ne savait pas quoi dire avec ça. Et il a apporté plein d'autres personnages qui n'étaient pas prévus au programme. Et qui viennent... vraiment créer une cohérence dans une vision globale de tous ces personnages, quoi.
Alors toi, tous ces personnages, Michel, sont des personnages un peu toxiques. Médée a tué ses enfants, tu vois. Antigone, bon, Antigone, c'est le personnage de l'héroïne tragique par excellence de la mythologie du théâtre grec. Toi, c'est comme toi, ce ne sont que des femmes tragiques.
Et... Ah, je pensais que j'étais une mythologie, ça m'aurait fait plaisir.
Oh, bah,
comme ça, j'aurais été inscrit.
Tu aurais été un mythe aussi ancien qu'Antigone ou Médée.
Écoute, faut être quelque chose, c'est bien, je suis heureux. Merci.
Je sais pas si c'était un compliment que je t'aurais fait à ce moment-là. Tous ces personnages sont des personnages tragiques. Qu'est-ce qui t'a conduit à les choisir, tous ces personnages ? Justement parce que ce sont des femmes, toutes des femmes donc. et on reviendra là-dessus. Donc le spectacle, je rappelle, s'appelle Femme Abysse, et c'est vrai que toutes se mettent en abysse, en abîme aussi, parce que c'est des destins de furie pour certaines, pour d'autres. Enfin, ce sont des femmes toxiques. C'est, pour moi, c'est une féminité toxique. Celle de Médée, celle de la marquise de Merteuil. Bon, je ne sais pas quel d'autres personnages, mais tous ceux que tu nous cites, là, Borgia.
Bah, il y a Juliette Capulet aussi.
Alors, elle est moins toxique que les autres, tout de même, je trouve. Parce que c'est le mythe de Juliette et Roméo et Juliette, donc c'est pas pareil. Elle est plutôt victime de son destin que Médée, Antigone, la marquise de Merteuil.
Ouais,
sont pas victimes.
Puis il y a aussi Gelli Robal.
Qui ça ?
Gelli Robal, qui était la nièce, la nièce d'Hitler.
Ah, il avait une nièce.
Voilà, où il y a toute une histoire un peu trop.
Alors, ça, c'est fascinant. T'es allé chercher. La
alors, nièce ça, c'est pas moi, c'est Théo Soligny. Là,
d'accord, c'est lui qui est
responsable.
D'accord. Ouais. Parce que bon, il y avait la maîtresse d'Hitler qui est très connue, Eva Braun. Ouais. La nièce, un petit peu moins.
Ouais, et la nièce est très intéressante.
Tu connaissais la nièce d'Hitler ? Non ? Ben, du tout.
Non, c'est une bonne découverte.
Oui. Mais justement, ça sera l'occasion de découvrir. Alors, elle était toxique, elle aussi, on peut la classer dans les femmes toxiques.
Non, elle n'était pas toxique. Mais les autres, en fait, on ne peut pas considérer, en tout cas, moi,
toxique. J'ai senti que toxique, t'aimes pas le mot, là.
Non, c'est, disons.
L'idée a quand même tué ses enfants.
Elles sont assumées complètement, jusqu'au pire, quoi. Voilà. Et c'est ça en fait, c'est un peu c'est beaucoup ça le sujet de la pièce, au-delà de la question féminine, puisqu'on est dans la question féminine, mais c'est vraiment, on a creusé cette question de du jusqu'au boutisme et de la non-compromission absolue.
Mais quand même, c'est des belles garces pour la plupart quand même, mais criminelle, la marquise de Merteuil, tout le monde connaît un petit peu l'histoire.
Elle n'est pas très gentille.
Ah oui, et...
Oui, on peut dire ça, oui.
Voilà. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans toutes ces femmes, en fait, au destin varié, mais
je
ne
sais pas, elles m'intéressent plus que les autres. Elles sont plus... Il me semble, enfin, c'est qu'un avis personnel, mais moi, je les trouve plus consistantes, plus inspirantes. Il y a, enfin, Borgia, Lucrèce Borgia, elle est un peu, là, c'est un peu le personnage central de la pièce, et elle est... C'est vraiment une figure. Alors, c'est la Lucrèce Borgia inspirée de Victor Hugo, pas la Borgia historique. Mais c'est une figure de femme qui est. Elle sera moderne dans 500 ans. Parce qu'elle représente une espèce de comment dire de non-compromission, elle ne fait aucun compromis, et puis elle fait ce qu'elle veut, ce qu'elle a décidé de faire, et puis c'est tout, même si c'est pire du pire. Hein.
Ouais, oui.
Donc il n'y a pas de question sociale ou de posture. Tous ces personnages-là, ils ne sont pas dans une posture... sont vraiment dans ce qu'elles sont, dans leurs désirs à elles, leurs envies à elles. Et il n'y a que ça qui compte, en fait.
Alors donc, on parlera un petit peu aussi du parti pris, de la mise en scène, etc. On est dans l'exploration, en tout cas, des femmes, de la féminité aussi, quelque part.
Oui.
Et ce que je constate, c'est encore une fois, on parle au nom des femmes, là, puisque l'auteur est un mec. Toi, t'es un mec. Et pourtant, le sujet, c'est les femmes.
Mais c'est pour ça que... Alors, il y a évidemment matière à y trouver du féminisme dans la pièce. Il y a peut-être aussi matière à y trouver le contraire. C'est possible aussi. Mais c'est pas... En tout cas, moi, je m'inscris pas dans le mouvement... Par exemple, le mouvement qui est en ce moment, voilà, le hashtag MeToo et compagnie.
D'accord.
Parce que c'était pas du tout le but. Moi, ça fait 2 ans que je réfléchis à cette pièce et on n'en était pas là. Donc... Et encore une fois, c'est pas... En fait, on parle des femmes, on creuse des personnages féminins, mais finalement, c'est pas ça le sujet de la pièce. Le sujet de la pièce, parce que quelqu'un, un homme qui va venir voir ça, il va probablement être interpellé. Peut-être que ça va faire écho aussi. Quelques endroits en lui, d'avoir une parole qui est une parole, voilà, un personnage féminin, Mais on a cherché vraiment à faire émerger ce qu'il y avait de plus intime, quoi, et qui, au-delà de la condition féminine et de la condition du genre, ben, c'est une condition humaine et intime.
Est-ce que tu aurais pu faire la même chose avec des personnages masculins, par exemple ?
Ben, je sais pas si j'aurais pu faire la même chose, parce que déjà les personnages féminins m'intéressent davantage. Je les trouve plus complexes, plus troubles et plus multiples. Bon, donc forcément, ben, j'ai l'impression que ça, il y a une plus grande dimension humaine et et contradictoire et
aussi par rapport à l'image des femmes en général de la société. Je veux dire, une femme comme Médée, par exemple, considérée comme une meurtrière, hystérique, on emploie souvent le mot hystérique pour les femmes, d'ailleurs, qu'on n'emploie pas pour les hommes. Il y a aussi l'image de la société sur les femmes, qui est différente.
Ah, mais Médée, ce qu'elle a fait, il y a d'autres personnages masculins dans la mythologie qui ont fait pareil, ou peut-être pire.
Bien sûr.
Et qui pourtant ne sont pas devenus... Mais parce que là, d'un seul coup, Médée, c'est ça qui est intéressant chez Médée, c'est qu'un seul coup...
C'est quand même une mère qui tue ses enfants aussi.
Elle tue ses enfants et d'un seul coup, elle préfère l'amour et donc l'amour trahi et la vengeance à ses propres enfants, ce qui est socialement inadmissible pour une mère. Et la pièce traite beaucoup aussi de la maternité. C'est quoi c'est bon. Il y a une espèce de chose qui vient comme ça, parler de la maternité, parce que cette idée générale qui voudrait laisser penser que la maternité, c'est un peu l'aboutissement absolu d'une femme et qu'elle ne pourra s'épanouir qu'avec son ventre rond, et bon, c'est une question qu'on pose, quoi. Est-ce que c'est vraiment ça ?
Alors donc le texte est un texte original, il y a deux comédiennes, alors pour le coup deux femmes donc sur scène, qui interprètent les différents personnages.
Ouais.
Alors elles interprètent les personnages sous forme de monologue, ou c'est un dialogue entre elles, ou un dialogue avec le public, enfin je ne sais pas comment ça se passe.
C'est que des monologues.
Des monologues.
Ouais. On est parti dans l'idée de créer une sorte de dimension un peu comme si elles étaient dans les limbes de l'entre-deux, on ne sait pas où elles sont, mais en tout cas elles viennent comme des apparitions et elles apparaissent et elles disparaissent et elles se passent comme une espèce de relais,
un peu comme l'image des anciens sur l'enfer, en fait, où on pouvait parfois avoir un contact finalement avec des âmes damnées qui surgissaient comme ça, portait un message et puis repartait.
Ouais, bah
c'est l'idée que ça a été inspiré un peu par ça.
Non, pas vraiment.
Parce qu'il y a un côté tragique aussi. Il y a un côté tragique quand même. Je veux dire, les comédiennes, c'est des tragédiennes pour l'occurrence. Elles sont torturées quand même. Non, non.
Bah,
elles sont pas heureuses, ces femmes. Tu n'as pas présenté des femmes heureuses sur scène.
Non.
Il n'y en a aucune qui délivre un message optimiste finalement.
Optimiste, je sais pas, mais...
Moi, j'ai pas vu le spectacle, hein, donc je suis putain, c'est toi qui vas nous dire... Parce que même par rapport au parti pris, il y a une mise en scène minimaliste, d'après ce que j'ai vu sur le dossier de presse.
Ouais,
Par contre, tout est axé effectivement sur le jeu des comédiennes, mais aussi les vêtements qu'elles portent.
Oui, il y a un gros travail sur les
costumes.
La lumière,
l'ambiance, et il y a aussi une ambiance sonore qui rajoute encore à l'effet dramatique finalement, et un peu cette descente aux enfers.
Moi je voulais travailler dans une espèce de plongée. Il fallait vraiment plonger dans un monde insécurisant, et
d'accord.
Mais c'est dans le titre, j'ai essayé de
femme trouver abysse,
les abysses, c'est ce qu'on peut pas sonder, quoi.
Elle entraîne le public avec elle, alors finalement en soi on est angoissé, en fait.
Ah bah, des fois, on peut même être effrayé par certains personnages qui sont d'une grande violence, quoi. Donc oui, c'est pas du théâtre hyper réjouissant. Voilà, mais bon, là, le sujet, il était...
Après, on peut prendre du plaisir aussi à être angoissé.
Oui, mais puis ça n'est pas qu'angoissant non plus. Il y a des personnages beaucoup plus lumineux.
Oui, oui, oui.
Juliette Capulet,
On se focalise sur Médée, mais il n'y a pas qu'elle.
Bien sûr.
Antigone n'est pas un personnage très désagréable. Et je ne sais pas tout quel aspect, là, Antigone, est... est présentée dans la pièce.
Mais Antigone, dans l'Espace 44, elle n'y sera pas.
D'accord.
Parce qu'on a dû, on a dû faire certaines coupes pour le lieu.
Ouais.
Donc des coupes qui ne sont pas énormes. Mais, donc il y a certains personnages qui ne seront pas présents. Donc deux personnages, en fait, qui ne seront pas présents cette fois-ci.
Vous avez sucré Antigone, et lequel?
Et Daphné, qui est en fait un personnage annexe un peu à Antigone. C'est une femme de Thèbes. Ça, c'est un personnage que l'auteur, Théo Soligny,
a créé
pour avoir une sorte de parole un peu... elle vient parler d'Antigone, sauf qu'elle vient parler avec son point de vue de femme du peuple qui est dans sa vie, qui n'est pas une fille de roi, qui est donc dans des préoccupations très concrètes. Et qui vient du coup ramener un peu toute cette espèce de grandeur, immensité tragique des figures comme Antigone, et le confronter à quelque chose de très concret, de réel. Et bon, enfin, pour quelqu'un qui est dans la vie et qui n'a pas à se soucier, Daphné ne vit pas dans les palais, palais domestique.
Les rôles, en fait, tu les as pensés pour des femmes. Je veux dire, tu t'es dit, il faut que ce soit des comédiennes. Où est-ce que ça aurait pu être des hommes? Pourquoi toi, par exemple, tu aurais pu jouer ces personnages?
Disons que... déjà, moi, je voulais là me focaliser sur mon travail de metteur en scène. Et c'est vrai que quand jouer dans sa propre mise en scène...
C'est pas facile.
On perd de la visibilité par rapport à certaines choses. Donc, je voulais vraiment avoir une visibilité globale. Et puis, c'est des personnages qui sont quand même tellement déjà connus, interprétés par... Il y a eu des écritures, des réécritures, des interprétations multiples par des immenses actrices. Et donc, voilà, il me fallait des comédiennes qui soient... qui aient la dimension pour restituer la largeur et l'immensité de ces personnages-là. Je pouvais pas, moi, m'atteler à ça. Et après, ça aurait pu être des acteurs qui... Mais bon, j'aurais trouvé que... J'avais pas envie non plus de dévier... faire le choix de prendre un acteur ou deux acteurs pour jouer des personnages féminins. On est tout de suite dans on indique quelque chose d'autre qui est purement... qui est autre que juste la axée sur ces personnages-là.
Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du personnage de Frigo, qui est effectivement complètement légitimement peut être joué par un...
C'est écrit pour un homme.
Pour un homme, Frigo. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, je ne sais pas si tu vas toi-même au théâtre, si tu t'intéresses un peu à ce qui se passe à Lyon, par exemple, ou ailleurs au niveau théâtre. Qu'est-ce que tu aimes comme d'emblée, comme ça, si on te proposait d'aller voir une pièce de théâtre, qu'est-ce que tu choisirais comme style?
Disons que moi j'ai des goûts un peu radicaux. J'aime beaucoup les metteurs en scène qui font qui ont vraiment une signature très radicale.
D'accord.
Je sais pas à qui je pense là. Michel Faux. Michel Faux, j'aime beaucoup. Disons que j'aime pas tout ce qu'il fait.
Ouais.
Mais j'aime sa démarche. Mais comme au cinéma, les réalisateurs qui me séduisent sont les réalisateurs qui ont une vraie démarche personnelle et où on n'est pas vraiment dans on a l'impression que ça ne pense pas au public quand ça fabrique l'œuvre. Que ça crée avec sa propre matière intérieure, quoi. Et que bon, après le public est touché ou pas. Et ça parvient ou pas, mais que il y a pas de considération un peu peut-être mercantile ou putassière, mais bon, enfin voilà. Donc ça, oui, ça me séduit.
Dans un style un peu différent, c'est quelqu'un que nous connaissons bien ici, c'est Jeffrey Jordan, que j'ai vu ce week-end à Paris dans son spectacle Accord Parfait. Alors c'est dans un autre style, c'est du seul en scène. Enfin, pas tout à fait seul en scène d'ailleurs, puisqu'il est sur scène avec son instrument, parce que c'est à la fois un comédien et un musicien. Donc son spectacle, qui est un spectacle plutôt humoristique, est aussi un spectacle musical. Voilà. Donc il joue, il rejoue de son instrument. non, mais sans, voilà, non, mais attention, je dis ça en toute innocence, évidemment. Et donc, il est actuellement à Paris, et si Bernard veut bien lancer l'interview que j'ai fait de lui, donc je l'ai rencontré ce week-end, et il nous a accordé une petite interview. On va écouter tout de suite.
Je suis à Paris avec Jeff Jordan.
Salut Gérald.
Bonsoir Jeff.
Bonsoir.
Nous nous retrouvons ici sur le pavé parisien.
Oui, c'est beau hein.
C'est oui, c'est Paris.
Paris
quoi.
By night.
Voilà. Alors donc on est dans un quartier plutôt tranquille, mais pas très loin de Bastille, mais un peu à l'écart quand même.
Oui.
Où tu te produis actuellement dans un théâtre, un petit théâtre de poche.
Oui.
Qui s'appelle La Comédie des Trois Bornes.
C'est ça.
Qui
voilà.
Se trouve rue
des Trois Bornes.
D'où le nom. Donc, Jeff et Jordan, nous t'avons connu à l'époque où tu t'affolais.
Oui, ça, c'est vrai.
À Lyon. Et nous sommes des Lyonnais et nous avons beaucoup apprécié ce que tu as fait à Lyon. Mais évidemment, le petit oiseau prend son envol.
Voilà. Ça devient un condor.
Voilà, c'est ça. Tant que ce n'est pas à vos tours.
Oui, c'est ça.
Alors, est-ce que c'est important de jouer à Paris quand même, encore aujourd'hui en France, en 2018?
Oui, ça reste important parce que c'est quand même le centre où il y a tous les professionnels du métier et c'est là où on peut aller aussi tâter le public parisien qui n'est pas du tout le même que le public en région. Et puis voilà, il y a des professionnels, donc c'est ça qui est intéressant. On peut aussi se confronter aux autres humoristes qui ont peut-être une popularité plus importante, des têtes d'affiche, des gens plus connus. Et il y a une multitude de spectacles, une vraie offre, très riche. Et ça me permet aussi à moi d'aller voir aussi les spectacles, de me produire sur des plateaux aussi, des plateaux d'humoristes. Et ça, c'est hyper important.
Donc à Lyon, tu t'affolais, ici, tu es en accord parfait.
C'est ça, on a changé le titre, à juste titre.
Alors ça reste toujours un seul en scène, pour ceux qui connaissent. Ils savent aussi que tu n'es pas vraiment tout seul sur scène.
Non.
Tu es accompagné d'un instrument.
C'est ça.
Dont nous devons... que nous devons, comment dire, c'est difficile à dire parce qu'on a envie de parler de Jean-Jacques. On a envie de parler de Jean-Jacques, mais nous devons rester discrets justement sur Jean-Jacques.
Ouais.
Voilà. Mais bon, tous les Lyonnais qui t'ont vu vont comprendre.
Hein. Absolument, oui.
Mais bon, les Parisiens qui nous écouteraient éventuellement seront peut-être intrigués.
Voilà, j'arrive à Paris donc... On garde le mystère sur l'instrument que j'ai avec moi sur scène.
Pour rappeler qu'il s'appelle Jean-Jacques quand même.
Il s'appelle Jean-Jacques.
Qui est le nom de ton père.
Qui est aussi le nom de mon père.
Non, mais toi, je sais des choses sur toi.
C'est vrai.
C'est normal.
T'as étudié ma bio et tout.
Oui, puis on se connaît quand même depuis longtemps, mon cher Jeffrey.
C'est vrai.
Donc, je suis venu voir ton spectacle Accord Parfait en me demandant qu'est-ce qui a bien pu changer depuis le temps que je connais Jeffrey Jordan et que je connais le spectacle. Alors, on peut dire déjà que tu as pas mal élagué quand même. Hein,
c'est vrai. Ça. C'est vrai. En fait, on a modéré le propos.
Modéré le propos. Alors, déjà, le format est plus court que ce que tu faisais auparavant.
Alors, il existe deux formats. Le format une heure, donc le format pour Paris.
D'accord.
Puisque dans un théâtre où il y a plusieurs séances, plusieurs spectacles, donc il faut un peu écourter et puis donner aussi envie aux gens de venir voir l'intégralité qui, elle, dure 1h20 et il y a une suite à ce que tu as vu, Gérald, hier. Il y a une suite, voilà, avec un développement plus pointu sur toute cette première partie.
Le thème central du spectacle, à l'origine, c'était évidemment ton homosexualité.
Oui, on peut le dire. Absolument.
À présent, on ne peut pas dire que ça a été complètement éludé, ça ne l'est
non,
pas du tout.
Non, on est sur une double lecture maintenant, on reste sur une vraie métaphore.
Voilà, disons que c'est moins, je dirais, ça peut paraître péjoratif comme terme, mais ça n'est pas, c'est moins asséné qu'auparavant.
Oui, c'est ça, on reste sur quelque chose d'un peu plus fin.
Comme si d'un spectacle gay, tu avais voulu passer à un spectacle aussi plus universaliste.
Absolument, on veut s'adresser à un public plus large. C'est pour ça qu'on a, on s'est concentré sur la réécriture.
Ça reste quand même très, très olé olé quand même.
Olé olé.
Alors, comprend qui veut le double sens et chacun comprend ce qu'il veut en fait dans ce spectacle. C'est ça, tout le monde a à manger, je dirais.
Il y a quand même des allusions qui ne peuvent pas échapper au PD que nous sommes, par exemple.
Non, ça c'est sûr.
D'accord. Alors, toi-même, tu dis d'ailleurs que c'est un spectacle, ton spectacle est une métaphore filée.
Oui.
Voilà.
Le jeu de mots est pas mal, non?
C'est pas mal. Alors, par contre, il y en a beaucoup de jeux de mots, d'ailleurs, dans le spectacle. C'est pas le seul. Il y en a certains, d'ailleurs, qu'on comprend après. On comprend pas sur le coup. Après, on dort, on se réveille, on dit « Ah oui, on rit !»
Ah, parce que t'as dormi?
Oui, j'ai dormi entre-temps.
Ah, mais attends.
Mais pas pendant le spectacle.
Ah, après.
Après.
Ça t'a... En fait, c'était tellement intellectuel que ça t'a brouillé
Complètement.
Les neurones.
Oui, ça lui a brouillé l'écoute.
Oui, ah bon ?
Ça va brouiller.
C'est bête parce que, au contraire, c'est censé clarifier l'écoute et la compréhension.
C'est une contrepétrie. Hein.
Ah, je la connais pas. Je réfléchirai
à
ça.
L'humoriste, c'est lui, c'est pas toi, Gilles, s'il te plaît. Alors, il a quand même fallu faire des choix par rapport à la mouture initiale.
En fait, on n'a pas tellement fait de choix. On a réécrit les passages en apaisant un peu le oui, discours.
Quand même, il y a des personnages qui ont disparu.
Pas tellement, puisque justement, dans la version 1 heure, oui, il y a des personnages qui ont disparu. Il y en a d'autres qui sont arrivés, d'ailleurs.
D'accord.
Qui sont un peu plus courts, mais on a voulu donner une vraie palette d'abord de ce que je sais faire en tant qu'acteur sur scène. Et en tant que musicien, tu as dû certainement remarquer qu'on a mis plus de passages musicaux.
Tout à fait.
En live. Et les personnages ont laissé place à des moments un peu plus intimes avec l'instrument. Ce qui permet de souligner ce thème de l'amour, de la liberté. On voulait vraiment axer sur un autre message que celui que je faisais passer avant. Mais les passages du spectacle restent les mêmes.
Jean-Jacques est quand même beaucoup plus mis en avant. Là.
C'est ça,
c'est vraiment
exactement.
Les deux rôles principaux. Avant,
exactement.
Il était plus un petit peu en retrait par rapport à toi.
Oui.
Maintenant, c'est.
Il prend de la hauteur.
Il prend de la hauteur.
Il prend du galon.
Oui, tout à fait.
Il a la même taille que moi. Je dis pas que j'ai grandi en taille, mais j'ai dû certainement grandir en maturité avec ce duo maintenant.
Alors, la mise en scène, c'est Claudia Tagbo.
Oui, mise en scène signée Claudia Tagbo.
Voilà,
absolument.
Qui est déjà bien connue. Oui. Comédienne, humoriste elle-même. Qu'est-ce qu'elle a pu apporter au spectacle, justement? Quelle est sa patte personnelle?
D'abord, elle m'a fait désapprendre des choses que j'avais pu apprendre en autodidacte. Parce que moi, je me suis formé pendant 4 ans en autodidacte, en montant sur scène, en écoutant mes inspirations, les gens qui m'ont inspiré, les artistes, mes muses, on va dire. Et elle m'a fait d'abord désapprendre ce que j'avais appris et faire ressortir de moi une sincérité de comédien, ce qui permet de auprès du public, en tout cas, d'être plus sincère. Et au niveau de mon jeu d'acteur aussi, elle a fait un gros travail, par exemple sur le souffle, sur la voix, parce que je chante beaucoup plus qu'avant aussi. Physiquement aussi, des étirements, elle me fait danser également. On est parti sur quelque chose de très visuel, pour que ça parle, pour que les gens en fait aient une vraie palette dans tout le spectacle, plein de tableaux, plein d'images. On reste vraiment sur ce thème de double image.
Donc dans la version longue, on retrouve quand même des personnages, on peut dire emblématiques. Il y a la grand-mère, moi j'aimais bien la grand-mère. Tu la replaces un petit peu.
Alors,
après
effectivement, dans la version intégrale, elle est encore présente et elle est bien différente d'avant et beaucoup plus... elle est bien mieux comme elle est maintenant. Elle est plus Mamie Suzanne qu'avant encore.
Alors il reste José quand même.
Oui.
Voilà, José, c'est ton côté politiquement incorrect en fait.
C'est ça, on a gardé quand même dans ce spectacle le côté un peu piquant, un peu coquin aussi.
Alors, un autre personnage finalement se trouve aussi sur scène à un moment donné, dans la dernière partie du spectacle, c'est l'Auvergne. Alors moi, c'est très amusant évidemment, mais enfin tu présentes quand même l'Auvergne comme une terre un petit peu, enfin c'est la guerre du feu quoi. Hein.
Mais non, c'est une très belle région.
Je voudrais savoir, tu as déjà tourné en Auvergne?
Oui, j'ai déjà fait des spectacles
en Auvergne. Et tu as eu des réactions négatives par rapport à cette image?
Pas du tout, ça reste de l'humour, donc on est sur du second degré constamment.
Peut-être parce que tu es auvergnat aussi.
Aussi, hein. J'ai une pleine légitimité à parler de l'Auvergne,
c'est comme
en bien ou en mal.
C'est comme tous les humours, l'humour PD, l'humour juif, l'humour auvergnat, c'est le meilleur quand il est fait.
Exactement, voilà, par un vrai auvergnat. Voilà.
Alors, il y a une question quand même que je voulais te poser, puisque tu parles d'un village qui s'appelle Ruine.
Oui.
Hein, dans ton spectacle.
Qui existe vraiment, hein, c'est dans le Cantal.
C'était ma question, justement. Ça
Ruine,
existe.
Ruine en Margeride, oui.
D'accord.
C'est un très beau village, mais c'est vrai que pour y arriver, ça fait peur. D'accord. Faut pas y arriver la nuit, quoi. Faut pas tomber en panne. En pleine nuit. Non, ça c'est proscrit.
C'est ce que tu dis dans ton spectacle,
oui.
D'ailleurs. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui connaissent déjà le spectacle auparavant, qui l'ont déjà vu? Comment tu pourrais les inciter à revenir voir le spectacle? Est-ce que tu leur dirais, par exemple, c'est tout à fait différent que ce que vous avez vu?
C'est exactement ça, c'est complètement différent. Il y a beaucoup plus de musique, comme j'expliquais. Je joue beaucoup plus avec mon instrument. Je parle vraiment d'amour avec mon instrument. Et on a une nouvelle lecture de ce que j'expliquais avant dans l'ancienne version, qui était beaucoup plus... disons qu'aujourd'hui, on est sur un aspect plus théâtral du one-man show. On parle vraiment là, cette fois-ci, d'un seul en scène. Et puis, il y a aussi des discours différents. Je parle de certaines époques qui ont marqué mon histoire, une des époques que je n'ai pas forcément vécues. mais qui aujourd'hui vraiment donner une empreinte en fait à ce que je dis aujourd'hui. Et il y a des passages un peu plus poétiques, il y a quelques passages un peu dramatiques, il y a beaucoup plus de jeux aussi, d'acteurs, le rythme est différent. Et maintenant la couleur, ce ne sont plus les projecteurs qui les font, c'est moi qui fais la couleur. Les projecteurs restent blancs, il y a une très belle création lumière. Et aujourd'hui c'est moi qui donne la couleur, c'est moi qui donne à voir au public les images.
Alors on peut te voir donc à Paris actuellement jusqu'au 30 décembre, je crois.
Jusqu'au 30 décembre, les dimanches et lundis à 19h, c'est ça.
Mais aussi le même spectacle sera en tournée dans plusieurs régions de France.
C'est ça.
Ça sera le spectacle que tu as préparé pour Paris.
Non, ce sera le spectacle intégral.
Intégral.
Voilà, ce sera le spectacle du format 1h20.
1h20, mais on sera toujours dans Accord Parfait.
Ce sera exactement la même chose, Accord Parfait. Ouais. Il y aura la première heure que tu as vue à la Comédie des Trois Bornes à Paris. Et puis, il y aura les 20 dernières minutes qui ne sont pas moins...
Truculentes,
voilà.
Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter pour le spectacle?
Bien d'abord que le public soit de plus en plus nombreux. Nous, on travaille déjà à peut-être aller jouer dans d'autres théâtres. On va voir, est-ce qu'on reste là, est-ce qu'on bouge. C'est très sensible comme travail à faire, comme réflexion. Voilà, c'est une stratégie aussi que j'adopte avec ma nouvelle équipe de production. On est en constante réflexion là-dessus. Voilà, passer dans une salle plus grande pour attirer un public plus large, avec aussi, et c'est l'avantage de Paris, une promotion médiatique plus importante, une couverture plus large, et aller peut-être aussi continuer d'aller en région avec des salles plus grandes. Voilà.
On te souhaite le meilleur pour la suite du spectacle et puis on continuera à te suivre, sachant que tu as toujours été aussi un ami de la radio, tu as toujours été présent.
Je viendrai vous voir quand je serai à Lyon.
Mais avec grand plaisir, voilà. Tu es toujours le bienvenu. T'as raison de t'éclaircir la voix, Michel, ça va bientôt être à toi. Donc, de retour sur Pluriel Gay avec notre invité Léo Betty. Alors, Michel, je vais te passer la parole. Donc, on avait dit 1 minute 35 secondes, donc je rigole évidemment.
Parce qu'il y a Bernard qui se met avec moi quand même. Non, mais t'as pas mon texte en plus. C'est pas grave, tu vas aussi présenter. Tu connais l'affaire.
Pourquoi je vais te passer la parole? Pourquoi? Parce que pour une fois, tu vas parler. Pourquoi?
C'est vrai, quelque chose de dire, quelque chose de bien.
Voilà, pour
ça
une
ça
fois.
Les trois coups.
Les trois coups. Seulement 3? Non, mais en fait...
Non, il va tout simplement... Bah, je vais commencer.
Que va-t-il se passer? Il va se passer quelque chose.
Il va se passer que Puriel Gay va passer avec une heure supplémentaire à partir de la semaine prochaine. Donc, à tous nos auditeurs et auditrices, vous allez nous retrouver à partir de 19h avec Bernard. Donc, on vous propose une émission tout simplement culturelle sur les agendas associatives et militantes avec une playlist, je vais le prononcer, qu'on va vous concocter avec Bernard. Et tout simplement, donc, cette émission sera en premier lieu interactive, donc avec le hashtag Puriel Gay, avec notre Facebook, que vous pouvez donc liker la page de Facebook Puriel Gay.
Oui, mais en français, c'est presse-livre.
Pourquoi presse-livre? Alors, tu veux que je le fasse en français? Non, il va tout me gâcher le truc. Ben, alors, pour Bernard, on va le dire en presse-livre pour les personnes d'un certain âge. Et également, voilà, donc nous aurons des intervenants pour toutes vos soirées lyonnaises. Toutes les associations sont également invitées pour pouvoir nous présenter donc leur sortie, leur veille, leurs agendas, leurs manifestations. Voilà, nous serons présents sur différentes manifestations avec Puriel Gay. Et également, ben, nous réservons, alors on va pas le dire tout de suite parce qu'on va attendre l'émission qui sont en route, donc des surprises, il y a quand même pas mal de choses qui vont se faire, donc on vous convie tous la semaine prochaine, donc le 3 octobre à partir de 19h, voilà, pour la première partie, puis également on retrouvera également toujours Gérald et Laurence pour l'interview à partir de 20h, donc l'émission à partir du 3 passe de 19h à 21h.
Voilà, et donc Bernard sera avec toi.
Voilà, on sera ensemble tous les deux.
On fera la technique, mais aussi participera un petit peu.
Voilà, tout à fait, on va échanger beaucoup de choses. Donc, on va voir. Donc voilà. Bon, donc on invite quand même les associations, parce que j'ai encore en train de faire des démarches. Si elles veulent nous contacter, tout simplement, je vais vous donner un mail. Donc c'est agendapurielgay@gmail.com. Donc voilà, et tout simplement pour certains, on a envoyé des documents qui vont continuer à partir avec des numéros de téléphone. Si vous voulez nous contacter via Facebook ou même purielgay.fr, n'hésitez pas.
Et bien c'est parfait, donc rendez-vous la semaine prochaine à 19h sur les mêmes ondes, 91.5 FM sur Radio Pluriel, pour 2 heures de Puriel Gay.
Tout à fait, voilà. C'est merveilleux.
Très bien. Merci Michel.
Donc 19h, la semaine prochaine. On vous attend toutes et tous.
Très bien. Alors, je vais revenir quand même un petit peu à notre invité, à Léo Betty, parce qu'il nous a dit des choses fascinantes hors antenne. Et je suis tellement fasciné que je veux faire participer les auditeurs et les auditrices. Puisque, parmi tous les personnages célèbres, il y en a un, je tombe des nues, je ne savais même pas qu'il existait. Alors, comment l'as-tu appelé Geli Raubal, c'est ça?
Geli Raubal. Peut-être ça se prononce autrement.
Voilà. Mais... en allemand, ça doit être ça, je pense. Hein, je n'ai pas fait d'allemand, mais Geli Raubal. C'est la nièce de Hitler. Alors, oui. Là, tu l'as fait surgir. Des abysses de l'enfer aussi, elle apparaît sur scène et c'est la nièce d'Hitler et tu nous as dit même qu'elle avait des rapports sexuels avec Hitler. Alors on va faire dans le people pourri et elle a été violée par l'horrible dictateur, c'est ça?
Disons que
on sait pas trop en fait, hein,
on sait pas trop
passé.
Il y a des oui des
et
des
qui a eu l'idée de la faire ressurgir d'un passé oublié?
Ça c'est Théo Sollini qui a voulu écrire sur elle. Parce qu'il était très intéressé par ce personnage et puis toute cette opacité autour de.
Mais elle-même, c'est une gentille fille au fond. Elle était prise.
Elle était adolescente et ça a duré quelques années. Où, il me semble, d'après certaines sources, que ce serait la première à avoir utilisé. Je ne sais plus dans quel contexte elle a dit ça, mais avoir utilisé le mot monstre en parlant de son oncle.
D'accord.
Donc c'était bien avant.
La
39,
guerre, le début de la guerre,
ouais,
etc.
Et elle avait dit quelque chose de l'ordre du... Il faudra aller vérifier, mais vous ne savez pas ce qui me fait faire, c'est un monstre. Ouais. Elle avait dit ça. Et...
D'accord.
Donc, on ne sait pas ce qui lui faisait faire vraiment, on se doute... Enfin, voilà, on imagine des choses peut-être
sexuelles.
Sur toute
sa part, on peut imaginer des choses assez tordues,
même
sur le plan de l'intimité.
Ouais.
Et... Donc, cette jeune fille s'est suicidée, c'est ça? Ou non, elle est morte de sa mort naturelle, mais très jeune.
Elle est morte à 23 ans.
23 ans, ouais. Elle ne s'est pas suicidée. Pas pourquoi je veux qu'elle
oui,
soit suicidée.
Vous avez dit qu'elle avait reçu des coups, elle était... tu méfiais.
La version officielle, c'est qu'elle s'est suicidée.
Oui.
Voilà, bon, après, les conditions de son corps et tout ça, bon, c'est pareil, c'est un peu bizarre, donc on se dit,
Donc,
est-ce qu'elle s'est suicidée ou pas
Parce qu'elle avait des côtes cassées, c'est ça, le nez cassé, des choses comme ça. Donc peut-être que c'est Hitler qui l'a assassiné de ses propres mains.
Mais pour faire l'histoire.
Non mais c'est possible. Non, mais, et du coup, enfin, on ne sait pas justement comment le personnage est traité dans la pièce. Justement, c'est l'intérêt de ne pas savoir si d'aller le voir.
Voilà. Après, voilà. Je veux dire, tous les personnages dans la pièce sont des interprétations.
Ouais, ouais.
Il y a notamment une sorte de personnage un peu qui est le miroir inversé de contemporain de Médée.
Ouais.
Ou, un personnage inspiré de Dominique Cotterêts.
Alors, il y a des personnages qui sont inventés aussi, d'après ce que j'ai compris.
Ouais. Oui, il y a une femme qui s'appelle Ashtia et qui est une femme de ménage d'aujourd'hui, inspirée.
Il y a un côté spectral peut-être, un petit peu aussi, non ? C'est ça ? C'est des spectres, oui, en fait, qui viennent nous parler.
Ouais, ouais, ouais.
Hein ? On parlait du virage de la femme morte, hein ?
Oui, tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai vu depuis tout à l'heure.
Elles surgissent finalement des enfers et... Bon, enfin, bon, moi je pense que ça doit être un spectacle intéressant dans la mesure où j'adore être moi personnellement mis comme ça
en... Surpris et effrayé en même temps.
Voilà, exactement.
Dans l'inquiétude permanente.
Absolument. Donc on rappelle que c'est au théâtre Espace 44, mais on redira encore parce que avant de terminer avec la pièce, je voudrais quand même que tu nous parles un petit peu des deux comédiennes. Comment s'appellent-elles, qui sont-elles, deviennent-elles? Quel est leur numéro de sécurité sociale?
Donc il y a Géraldine Mercier. Et Gvantsal Lobjanidze, voilà, qui font vraiment un travail de elles portent
tous les personnages,
toutes ces femmes avec beaucoup de force et de dimension, ce qui était nécessaire parce que mais parce qu'elles ont aussi une présence, une voix. Je les ai aussi choisies pour
une voix sépulcrale.
C'est des voix un peu dans les graves et puis enfin voilà, qui sont, c'est pas des actrices fluettes.
Ouais. Mais d'ailleurs on voit aussi les photos que tu m'as envoyées. Non, je monte l'écran, il y a rien dessus. Oh, mais il est bête ce Michel, mais c'est pas possible.
moi je crois tout ce qu'on voit. C'est pour ça que j'ai regardé, j'ai des belles images sur l'écran. Je dois dire aux éditeurs ce qu'il y a sur l'écran.
Il m'a envoyé un petit dossier de presse avec pas un dossier de presse, mais un petit conducteur sur le spectacle et puis des photos. Bon, c'est vrai qu'elles ont des attitudes. Quand je parle de spectral ou sépulcral, c'est un peu ça. On a l'impression de voir quand même des goules sorties de.
Ah, mais de toute façon, moi j'ai pas travaillé dans le naturalisme et le réalisme.
Ouais.
Donc, on est vraiment dans un univers complètement onirique. Et c'est des apparitions.
Je redirai avant la fin de l'émission les dates, et puis évidemment que ça se passe au théâtre Espace 44. On ne le dira jamais assez. Mais avant de conclure l'émission, puisque le temps passe vite, j'ai des annonces à faire.
Des annonces à Gérald.
Mais voilà, c'est mes petites annonces. Vendredi soir, au centre LGBTI de Lyon, centre LGBTI 19 rue des Capucins, je t'interdis de bailler.
Lyon 1er, j'ai pas baillé.
Si, t'as baillé, je t'ai vu. Lyon 1er. Lyon 1er, exactement. Il va y avoir, organisé par la mairie du 1er arrondissement, une soirée spéciale, une soirée rencontre débat. Et lors de cette rencontre, vous pourrez justement rencontrer la maire du 1er arrondissement, Nathalie Perrin-Gibert, qui sera accompagnée de son adjoint en charge de la lutte contre les discriminations, voilà, avec également des professionnels de la lutte contre les discriminations, chargé de mission auprès du défenseur des droits, Romain Blanchard. Alors j'ai noté les noms, Sylvain Veillas, délégué du défenseur des droits à la mairie du 1er arrondissement de Lyon, Marisol Epouyati, qui est conseillère régionale du défenseur des droits, anciennement à la HALD, et maintenant donc qui est conseillère régionale, voilà. Tout ça en collaboration avec des associations qui sont également adhérentes du centre, la cité HES, Homosexualité et Socialisme, David et Jonathan, SOS Homophobie, la PGL, Association des parents et futurs parents gays et lesbiens, la Lesbian Gay Pride de Lyon, voilà. Donc c'est à 18h30, vendredi 28 septembre, c'est une rencontre débat sur la PMA, venez nombreuses et nombreuses. Voilà,
nombreuses.
C'est donc, je l'ai dit, à 18h30.
18h30.
D'accord, au centre LGBT, je l'ai dit aussi. 19 rue des Capucins, je l'ai dit.
Voilà.
On a entendu tout à l'heure notre ami Jeffrey Jordan qui nous a accordé ce petit entretien téléphonique suite à son spectacle Accord Parfait, qu'il joue le dimanche et les lundis à la Comédie des Trois Bornes à Paris, 11e. Mais il est toujours en tournée. Et il sera notamment vendredi et samedi, les 28 et 29 septembre, à Valence, ou plus exactement à Bourg-les-Valence. Voilà, qui est à côté de Valence, comme tu le sais. Et je sais que tu préfères.
Je suis très très bon. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Mais tu me connais.
Bourg-les-Valence, que Valence.
Moi, je sais pas, je trouve quelque chose de plus. Oui, je sais pas pourquoi, mais c'est bon, instinctif chez moi.
Oui.
C'est comme Bourg-la-Reine, c'est pareil pour la région parisienne.
Voilà, tout à fait.
Que tu connais très bien d'ailleurs.
Ah, je connais très bien Bourg-la-Reine et Choisy-le-Roi aussi.
Ouais, c'est ça. Voilà.
Donc, du coup, là, en l'occurrence, on sera à côté de Valence, dans la banlieue de Valence, Bourg-les-Valence, donc à l'Appart Café, ça s'appelle, c'est le nom du café-théâtre. C'est 9 rue du Bourg, tout simplement, à Bourg-les-Valence. T'as vu, je le répète plusieurs fois.
Voilà,
je sais que ça te ferait plaisir.
J'aime bien comme tu le prononces en plus.
Je voulais dire aussi.
Il revient sur Lyon, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il était
alors,
passé sur Lyon également.
Cet été, il a passé une partie de l'été à Espace Gerson, ce magnifique café-théâtre lyonnais que nous aimons tant. Voilà. Mais il reviendra. Ben, promis qu'il reviendrait. Et qui reviendrait nous voir à l'émission aussi. Je voudrais signaler aussi que l'entretien qu'on a entendu, la prise de son était faite par Gilou Zouzou, si tu m'écoutes.
Et c'est un gros bisou à Gilou, bah oui, voilà. Quand même, je le connais.
Il intervient un petit peu aussi dans l'interview. Alors.
Il a ouvert la porte, mon petit Gilou, c'était beau.
Elle a fait la prise de son, c'est pas évident parce que c'était dans.
Vous étiez où encore ?
À la terrasse d'un café. Voilà.
Ah, c'était pas dans la voiture, et ça a changé alors ?
Non.
J'aime bien les interviews de Gérald dans la voiture.
Et c'était à une heure où je n'étais pas encore sous. Donc c'était l'heure où
j'étais encore
à jeun.
Ah, parce qu'en plus tu
bois.
Oui, on a eu de la chance sur ce
C'est problème. De notoriété internationale.
Fais-moi une interview sur sous pour
oui,
voir si ça
bien.
Vient.
D'accord. D'accord, il y a pas
donc bientôt, tu peux faire ça, l'interview sous
voilà,
Gérald.
Ça serait beau, voilà. On peut inventer ce concept, interview sous cocaïne, voilà. Interview sous...
Mais c'est vrai qu'on fasse ça en ville, tu vois, qu'on sort tous ensemble.
Non, mais toi, différentes substances psychotropes.
Oui, non, mais moi, je peux tout essayer. Après, voilà. Je fais des aventures. Voilà, je vous ferai des aventures.
Alors, l'interview sous alcool, l'interview
voilà.
Sous...
Les nouvelles expériences, je ferai tout Lyon, toutes des interviews et sous différentes... Différentes formes.
Ouais, héroïne, on évite.
Non, pas trop, parce qu'après, je
trouve
pas
bien. Ouais.
Non, mais quelque chose de sympa. Voilà, ouais. L'interview sous. Voilà.
D'accord.
On les Lyonnais, on va
on
tous
va
arriver.
On va lancer le concept.
Ah, Bernard, tu viens avec moi. Hein.
Sous alors... les caleçons, oui.
Ah, mais il n'y a pas de
L'émission se termine, heureusement. Alors, j'ai encore des annonces à faire, si vous voulez bien m'écouter, messieurs. Donc, vendredi 28 septembre. Mais ça, c'est dans l'intimité que ça va se passer. C'est l'inauguration des nouveaux locaux de Aide. Hein, c'est sur invitation, c'est souvent des associations et des professionnels de la santé qui sont invités, enfin souvent, qui sont en l'occurrence invités ce jour-là pour l'inauguration des locaux qui vont se trouver désormais donc 110 rue Sully.
Dans le 6e.
Aide, hein, l'association qui s'occupe de la lutte contre le VIH et qui organise des dépistages aussi d'ailleurs, alors tantôt dans leurs locaux, c'est le mercredi, je le répète parce qu'on ne répète jamais assez, le mercredi de 16h30 à 20h30. Les mardis de 18h30 à 20h30, Aide se trouve également au centre LGBT, toujours pour des dépistages et des rencontres, sous anonymat évidemment. Et samedi, ils sont au centre de santé, au C2S, centre de santé de sexualité, 5 rue du Griffon, Lyon 1er. Mais désormais, leur rendez-vous dans leurs locaux, et si on veut les voir, les contacter, etc., c'est 110 rue Sully, Lyon 6e. Voilà.
Il y a un numéro de téléphone ?
Non, j'ai oublié de le prendre, le numéro. Je le dirai la prochaine fois. Mais t'as raison, j'aurais dû, je fais mal mon boulot.
Non, mais on mettra sur Facebook.
Ouais.
Voilà. Voilà. Toutes les coordonnées que tu nous as citées.
Absolument. On va rappeler... Alors, attends, je vais regarder combien il nous reste de temps. Il nous reste 5 minutes. Alors, 5 minutes, on va rappeler donc que Famabis, c'est au théâtre Espace 44 rue Burdeau à Lyon, à partir du 9 octobre jusqu'au 14 octobre. On fait comment pour avoir des places ? On va sur Internet, billets réduits.
Ah oui, billets réduits, ou le site de l'Espace 44 aussi, à la billetterie en ligne.
D'accord.
Ou téléphoner, ça ne marche pas aussi.
C'est à quelle heure les représentations ?
Alors, ça dépend des jours. Il y a, je crois, le mardi, c'est 20h30. Mercredi, jeudi, vendredi, 19h30. Samedi, 20h. Bon, mais bon, je ne sais pas exactement.
Oui, bon, il faut se rendre sur le site internet de l'Espace 44.
Et le dimanche, c'est à 18h, je crois.
Ouais. D'accord.
Et c'est marqué sur le site.
Très bien. De toute façon, nous, on remet toutes les informations sur les réseaux sociaux de l'émission. Hein ? Voilà. Merci Léo Bétuy, de nous parler de toutes ces femmes que nous avons
Adorer, aimer.
Voilà, et que nous continuerons
à aimer. Affreusement aimer.
Puisque tu nous fais ressurgir des limbes, des enfers, des abysses. On va lancer une petite chanson, c'est Rita Mitsuko, il y a longtemps que je voulais la passer, et je n'avais jamais eu le temps de le faire, c'est une reprise de Liber Tango. Mais avant, pourquoi je vais la passer je voulais la passer parce que je voulais rappeler le tango.
Ah oui,
samedi après-midi, le 29 septembre, notre ami Maud Mangieri va faire une démonstration de tango en public, cette fois-ci, avec sa partenaire Léa. Donc c'est à 17h, je crois, attends, je vais noter ça quelque part, de 17h à 18h, voilà, dans le cadre du festival Kiosque qui se tient ce week-end à Confluence, dans un endroit qui s'appelle Station Mu. Station Mu, M-U. MUE, voilà. Et c'est un espace en plein air, cours Charlemagne, pas loin du centre commercial Confluence. Il paraît que c'est très bien, je ne connais pas. Mais il y a là tout un festival qui dure deux semaines, avec. Deux semaines, que je raconte, tout le week-end, deux jours, avec de la musique, des concerts, etc. Des spectacles, et tutti quanti. Et donc, Avanzo Tango, l'association de Maud Mangieri, qui va de 17h à 18h faire danser les gens. Leur présenter le tango. Le tango tel qu'elle le pratique, le tango argentin, mais aussi le tango queer.
Donc on va y aller, nous.
On pourrait essayer de faire un petit. Ouais, voilà.
Tout à l'heure, tu m'en parles.
On s'y mettait. Voilà,
on va y aller.
Voilà.
Et puis aussi, également, n'oubliez pas, la semaine prochaine, mercredi 19h.
Ben oui.
Voilà. On se retrouve tous ensemble.
Il y a des nouveautés. Merci Léo, Betty.
Merci.
À bientôt.
Au revoir à tout le monde.
Ses fringues.